3. Kirion et Éorle. Le récit est précédé d'une note sur le Halifyrienne, le plus occidental des feux d'alarme du Gondor, le long des crêtes des Ered Nimrais. Le Halifyrienne était le plus élevé des feux d'alarme, et tout comme l'Aelinac, qui venait en deuxième en termes de hauteur, il semblait surgir solitaire d'un grand bois, car se creusait derrière lui une faille profonde, le sombre val de Firienne, dont le Halifyrienne était le point culminant. Et il se dressait, abrupt, hors de la faille, mais ses versants extérieurs, et plus particulièrement ceux du nord, s'abaissaient en longues pentes douces et y poussaient des arbres presque jusqu'au sommet. Et plus l'on descendait, plus les bois se faisaient touffus, surtout le long de la rivière Mering, qui jaillissait dans la faille, et au nord, dans la plaine où elle confluait avec l'Antévière. La grande route de l'ouest traversait les bois par une longue percée, ceci afin de lui éviter les terres marécageuses sur la lisière nord, mais cette route avait été tracée aux jours anciens. Et après le départ d'Isildur, personne n'abattit aucun arbre dans le bois de Firienne, sauf les gardiens du feu d'alarme qui avaient à tâche d'entretenir la grande route et le sentier qui menait au sommet de la colline. Ce sentier prenait sur la route non loin de là, où elle pénétrait dans les bois et serpentait le long de la pente jusqu'à dépasser les arbres, au-delà desquels se trouvait un escalier taillé dans le roc et menant à l'emplacement du feu d'alarme. Une vaste aire circulaire aplanie par ceux qui avaient fait l'escalier. Les gardiens du feu étaient les seuls habitants de ce bois, hors les bêtes sauvages. Ils vivaient dans des cabanes juchées dans les arbres près du sommet, mais ils n'y séjournaient guère longtemps, à moins d'y être retenus par le mauvais temps. Et ils allaient et venaient selon leur tour de garde. Et pour la plupart, ils étaient contents de rentrer chez eux. Non point à cause du danger des bêtes sauvages, et nulle ombre mauvaise née des jours sombres ne hantait le bois, mais sous le bruissement des vents et les cris des oiseaux et des bêtes de la forêt, ou parfois le fracas des cavaliers galopant à bride abattue sur la route, il s'épandait un silence tel qu'un homme se trouvait soudain tenu de parler à ses camarades dans un murmure, comme s'il s'attendait à entendre l'écho d'une forte voix qui le hélerait de loin et d'un lointain passé. Dans la langue des Rohirrim, le nom Halifyrienne signifiait « montagne sacrée ». Avant leur venue, elle était dite en Sindarin « Amon Anwar », la colline de révérence. Un nom dont personne au Gondor ne savait la raison d'être, or, comme il s'avéra par la suite, le souverain ou l'intendant en exercice. Pour les quelques hommes qui osaient s'écarter de la route et errer sous ses frondaisons, le bois portait en soi la raison de son nom. Dans le parler commun, il était dit « bois du murmure ». À la grande époque du Gondor, aucun feu d'alarme n'avait été installé sur la colline tant que les Palantiri maintenaient la communication entre Osgiliath et les trois tours du royaume et qu'il n'y avait point nécessité d'envoyer des messages et des signaux. Dans les temps qui suivirent, peu de renforts se pouvaient espérer des régions du nord où le peuple du Calenardon était à son déclin, et on envoya plus de forces armées dans les parages à mesure que Minas Tirith éprouvait de plus en plus de difficultés à tenir le front de l'Anduin et à protéger ses côtes méridionales. Un peuple nombreux vivait encore en Anorienne, et ils avaient à charge de surveiller les marches septentrionales du côté du Calenardon et sur l'autre rive de l'Anduin, à Caer Andros. C'est pour maintenir la communication avec ces populations que furent construits et entretenus les trois feux d'alarme les plus anciens, l'Amondin, l'Aelenac et le Min Rimmon. Mais bien que la ligne de la rivière Mering fût fortifiée, et ce entre les marécages impraticables de son confluent avec l'Antévière et le pont qu'empruntait la route vers l'ouest au sortir du bois de Firienne, on ne permit point que fût érigé un fort ou un feu d'alarme sur l'Amon Anwar. Du temps de l'intendant Kirion, des hordes de Balkoth assaillirent la région et, s'alliant aux orques, franchirent l'Anduin et pénétrèrent dans le Vold à la conquête du Calenardon. Et ce péril mortel aurait anéanti le Gondor n'eût été pour la venue d'Éorl le Jeune et de ses Rohirrim qui sauvèrent le royaume. La guerre ayant pris fin, le peuple se demanda comment l'intendant trouverait à honorer Éorl et à le récompenser. Et on s'attendait à l'organisation d'un grand festin à Minas Tirith, et qu'au cours du festin, on annonça la chose. Mais Kérian était homme à ne guère livrer ses pensées. Et chevauchant vers le sud à la tête de l'armée fort réduite du Gondor, il cheminait en compagnie d'Éorl et d'une Éored de cavaliers du Nord. Parvenu à la rivière Mering, il se tourna vers Éorl et, à la stupeur de tous, il dit « Adieu pour maintenant, Éorl, fils de Léod. Je m'en retourne chez moi, où bien des choses exigent d'être reprises en main. Je commets en ta garde le Calenardon pour un temps, si tu n'es pas trop pressé de revenir dans ton propre royaume. Dans 3 mois, je te retrouverai ici même, et nous nous entretiendrons ensemble. » « Je viendrai, » répondit Éorl. Et ainsi, ils se séparèrent. Dès que Kérian fut rentré à Minas Tirith, il convoqua quelques-uns de ses plus fidèles serviteurs et dit « Rendez-vous maintenant au bois du Murmure, et là, il vous faut rouvrir l'ancien sentier qui mène sur l'Amon Anwar. Il est tout envahi de ronces depuis longtemps, mais son accès est encore marqué par une pierre levée au bord de la route, au point où le bois, en sa partie nord, l'enserre de partout. Le sentier est sinueux, mais à chaque détour se trouve une pierre levée. Et en suivant ces pierres, à la longue, vous parviendrez à la limite des arbres, et là trouverez des degrés de roche qui mènent vers le haut. Je vous enjoins de ne pas pousser plus loin. Faites ce travail en toute promptitude et revenez-moi. N'abattez point d'arbres, dégagez seulement un sentier par où quelques hommes à pied puissent passer aisément pour accéder au sommet. Et laissez les broussailles à l'embranchement avec la route, afin que nul de ceux qui la prennent ne soit tenté de s'aventurer sur le sentier avant que je n'y vienne moi-même. Ne dites à personne où vous allez, ni ce que vous avez fait. Si quelqu'un vous interroge, dites seulement que le seigneur intendant désire qu'un lieu soit aménagé pour sa rencontre avec le seigneur des cavaliers. » Et quand vint le moment, Kérian s'enfuit avec Alas, son fils, et le seigneur de Dol Amroth, et 2 autres membres de son conseil. Et il rencontra Éorl au gué de la rivière Mering. Auprès d'Éorl se tenaient 3 de ses principaux capitaines. « Allons donc à présent à l'endroit que j'ai fait apprêter, » dit Kérian. Lors, ils postèrent une garde de cavaliers près du pont, puis ils s'engagèrent sur la route à l'ombre des arbres et trouvèrent la pierre levée. Ils laissèrent là leurs chevaux et une autre garde nombreuse de soldats du Gondor. Et Kérian, debout devant la pierre, se tourna vers ses compagnons et dit « Je m'en vais maintenant gravir la colline de révérence. Suivez-moi si vous le voulez bien. Avec moi viendra un écuyer et un autre avec Éorl pour porter nos armes. Tous les autres iront sans armes, comme témoins de nos paroles et de nos actes en ce haut lieu. On a dégagé le sentier, mais personne ne l'a emprunté depuis que je suis venu ici avec mon père. » Or donc, Kérian conduisit Éorl parmi les arbres, et les autres suivirent en bon ordre. Et lorsqu'ils eurent passé la première des pierres intérieures, ils se turent et ils marchèrent furtivement, comme craignant de faire du bruit. Et allant ainsi, ils atteignirent enfin les pentes supérieures de la colline, et ils franchirent un anneau de bouleaux blancs et aperçurent l'escalier de pierre accédant au sommet. Au sortir de la pénombre du bois, vif et chaud leur parut le soleil, car on était au mois d'Ourimé. Et cependant, le mont verdoyait en son faîte, comme si là-haut, l'année s'était attardée au mois de l'OTC. Au pied de l'escalier, on avait aménagé, avec des mottes de gazon, un rayon ou une alcôve à flanc de coteau. Là, la compagnie s'assit un instant jusqu'à ce que Kérian se leva et prit des mains de son écuyer le blanc bâton du pouvoir et la blanche mante des intendants du Gondor. Et debout, sur la première marche de l'escalier, il rompit le silence, parlant bas mais distinctement. « Je vais à présent déclarer ce que j'ai décidé en vertu de l'autorité qui est mienne comme intendant des rois. À Éorl, fils de Léod, seigneur des Éothéodes, en reconnaissance de la vaillance de son peuple et de l'aide inespérée qu'il procura au Gondor en un temps d'âpre nécessité, je fais libre don de toute la vaste contrée du Calenardon depuis Landuin jusqu'à Lisen. Là, s'il le désire, il sera roi, et ses héritiers après lui, et son peuple vivra libre, tant que prévaudra l'autorité des intendants du Gondor jusqu'au retour du grand roi. Et son peuple n'aura d'autres obligations que celles dictées par ses lois et sa volonté propre, hors celles-ci. Il sera tenu de vivre en bonne amitié avec le Gondor, et cela à perpétuité. et les ennemis du Gondor seront les siens tant que l'un et l'autre royaume perdurera. Et à même obligation sera soumis le peuple du Gondor. » Lor et Orl se leva, mais il demeura un temps silencieux, car il était stupéfait par l'extrême générosité du don et la noblesse des propos. Et il concevait bien la sagesse de Kirion, autant pour sa qualité de souverain du Gondor, soucieux de protéger ce qui restait alors de son royaume, que pour son amitié envers les Éothéodes, dont il connaissait les besoins. Car ce peuple se faisait trop important pour les terres du Nord, et il languissait de revenir au sud, dans ses demeures de jadis. Mais la crainte de Dol Guldur les retenait. Or, en Calenardon, ils auraient de la place en suffisance et même de reste, et ils échapperaient à l'ombre de grand-peur. Et cependant, au-delà même de toute question de sagesse et de bonne politique, tant Kirion qu'Eorl étaient mus à l'époque par la grande amitié qui liait leurs deux peuples et par le sentiment de vive affection qu'ils éprouvaient à l'égard l'un de l'autre en tant qu'hommes véritables. De la part de Kirion, c'était l'amour d'un père avisé, vieilli dans les soucis du monde, pour un fils qui a tout l'espoir et l'énergie de la jeunesse en lui. Tandis qu'Eorl voyait en Kirion le plus grand et le plus noble des hommes qu'il ait jamais connu, et le plus sage en qui reposait la majesté des rois des hommes d'antan. Et finalement, lorsqu'il eut considéré la chose en son fort intérieur, Eorl parla, disant « Seigneur intendant du grand roi, le don que tu offres, je l'accepte pour moi et pour mon peuple. Il excède considérablement tout ce que nous aurions pu gagner par nos armes, à supposer que notre action n'ait point été en elle-même un libre don de l'amitié. Mais cette amitié, je la scellerai par un serment dont on se remémorera à jamais. Alors rendons-nous en ce haut lieu, dit Kirion, et devant ses témoins, prononçons les serments qui se doivent. Or donc, Kirion gravit les degrés avec Eorl, et les autres suivaient derrière. Et lorsqu'ils atteignirent le sommet, ils se trouvèrent sur une vaste aire gazonnée, de forme ovale et sans clôture, mais à l'est se trouvait un petit monticule où poussaient de blanches fleurs d'alphirine, et le soleil couchant les pailletait d'or. Lor, le seigneur de Dol Amroth, chef de ceux qui escortaient Kirion, se dirigea vers le monticule et dans l'herbe à ses pieds entrevit une pierre noire. Et sur cette pierre, que ni les mauvaises herbes ni les intempéries n'avaient altérée, trois lettres étaient gravées. Et il dit à Kirion, « Serait-ce donc là une tombe ? Mais qui gît là ? Quel homme fameux de jadis repose donc ici ? » « N'as-tu pas lu les lettres ? » dit Kirion. « Je les ai lues, » dit le prince, « et pour cela même je m'étonne, car ces lettres sont Lambé, Ando et Lembé. Or il n'y a point de tombe pour Elendil, et il n'est homme depuis son époque qui ait osé prendre tel nom. » « Et pourtant c'est là sa tombe, » dit Kirion, « et c'est d'elle qu'émane cette aura de majesté qui environne la colline et le bois en contrebas. Depuis Isildur qu'il a élevé et Meneldil qui lui succéda, et par toute la lignée des rois et toute la lignée des intendants, et jusqu'à moi-même, cette tombe fut gardée secrète sur ordre d'Isildur. Car, déclara Isildur, ici est le cœur du royaume du Sud, et c'est ici que le mémorial d'Elendil le fidèle est commis à la garde des Valar, et il en sera ainsi tant que le royaume perdurera. Cette colline restera sacrée, et nul ne viendra en troubler la paix et le silence, hors les héritiers d'Elendil. Et je vous y ai amené, afin que les serments prêtés en ce lieu soient empreints de la plus lourde solennité pour nos héritiers, aux uns comme aux autres. » Lors, tous ceux qui étaient présents firent silence, la tête courbée, jusqu'à ce que Kirion dise à Eorl, « Si tu es prêt, prononce maintenant ton serment, conformément aux coutumes de ton peuple. » Or donc Eorl s'avança, et prenant sa lance des mains de son écuyer, il la ficha droit en terre. Et il tira son épée pour la projeter dans les airs, et elle flamboya au rayon du couchant. Puis il la rattrapa au vol, fit un pas, puis il posa la lame sur le monticule, mais ses mains étreignaient toujours la garde. Et alors il prononça d'une voix puissante le serment d'Eorl, et il employa la langue des Éothéodes qu'on traduit ici dans le parler commun.
« Oyez tous, oyez, vous autres peuples qui n'avez point courbé l'échine devant l'ombre de l'Est. En vertu du libre don consenti par le seigneur de Moonbourg, nous viendrons faire nos demeures dans la contrée qu'il nomme Calenardon. C'est pourquoi je fais le serment, en mon nom propre et en celui des Éothéodes du Nord, qu'entre nous et le grand peuple de l'Ouest, il y aura éternelle amitié. Leurs ennemis seront nos ennemis, leurs besoins seront nos besoins, et quelque mal, menace ou assaut qu'ils subissent, nous les secourrons de tout notre pouvoir. Ce serment liera mes héritiers et tous ceux de ma lignée sur nos nouvelles terres, et qu'ils se gardent de le transgresser, de peur que l'ombre ne descende sur eux et qu'ils ne soient maudits à jamais. »
Et Éorl remit son épée au fourreau, s'inclina et se retira auprès de ses capitaines. Or donc Kirion lui fit réponse. Se dressant de toute sa hauteur, il posa la main sur la tombe, et dans sa main droite, il tenait le blanc bâton des intendants, et les paroles qu'il prononça remplirent d'admiration ceux qui l'entendirent. Car au moment même où il se leva, à l'ouest sombrait le soleil enflammé, et sa blanche mante parut s'embraser. Et il prêta serment, engageant le Gondor par un même lien d'amitié et de secours réciproque en cas de besoin, puis, élevant la voix, dit en Quenya
« Vanda sina tel maruva, Elena noreo alcar en yalien ar elendil vorondo voronwe. Naitiruvantes yarar, mahalmasen, minumen ar ieru ior ilie mahalmar ea tenuyo. »
Et ces paroles, il les répéta dans le parler commun. Que ce serment atteste de la gloire du pays de l'étoile et de la foi d'Elendil le fidèle, et qu'il demeure sous la protection de ceux qui siègent sur les trônes de l'Ouest et de l'Unique qui est au-dessus de tous les trônes à jamais. Et un tel serment n'avait jamais été entendu en Terre du Milieu depuis qu'Elendil lui-même avait juré alliance avec Gil-galad, roi des Eldar. Lorsque tout fut accompli et que tomba l'ombre du crépuscule, Kirion et Éorl et leurs compagnons redescendirent en silence à travers le bois s'enténébrant et revinrent au camp près de la rivière Mering, où on leur avait dressé des tentes. Après le repas, Kirion et Éorl, avec le prince de Dol Amroth et Éomund, le chef d'armée de Léothéode, siégèrent ensemble pour définir les frontières où prévaudrait l'autorité du roi des Éothéodes et celle de l'intendant du Gondor. Et voici comment fut délimité le royaume d'Éorl. À l'ouest, il aurait pour frontière le fleuve Angren, depuis son confluent avec l'Adorn. Il s'étendrait au nord jusqu'aux murailles extérieures d'Agrenost, et au nord-ouest depuis l'orée de la forêt de Fangorn et jusqu'à la rivière Limkler. Et cette rivière marquait ses confins nord, car les terres au-delà n'avaient jamais été revendiquées par le Gondor. À l'est, ses frontières étaient constituées par l'Anduin et les contreforts occidentaux des Emin Muil, jusqu'au marécage à l'embouchure de l'Onodlo, et au-delà de cette rivière jusqu'à la Glanhir, cours d'eau qui baignait le bois d'Anoir et allait se jeter dans l'Onodlo. Au sud, ses limites s'étendaient des Ered Nimraïs jusqu'à l'extrémité de leur pointe nord, mais tous les vallons et les combes qui s'ouvraient sur le nord devaient appartenir aux Éothéodes, y compris la contrée au sud des Dithaiglir, qui se déployait entre l'Angren et la Dorne. Parmi toutes ces terres, le Gondor ne préserva son autorité que sur la forteresse d'Angrenost, où s'élevait la troisième tour du Gondor, Orthanc l'inexpugnable, qui abritait le quatrième des Palantiri du royaume du Sud. Au temps de Kirion, Angrenost était encore tenu par une garnison de Gondoriens, mais ces gens étaient venus à former une petite communauté bien enracinée sous le commandement d'un capitaine au pouvoir héréditaire, et les clés d'Orthanc demeuraient entre les mains de l'intendant du Gondor. Les murailles extérieures, mentionnées dans la description des frontières du royaume d'Éorl, étaient composées d'un mur et d'un fossé qui couraient sur plus de 2 milles au sud des portes d'Angrenost, jusqu'aux hauteurs où venaient mourir les montagnes de brume. Au-delà, s'étendaient les terres cultivées des gens de la forteresse. On décida aussi que la grande route qui autrefois traversait l'Anorienne et le Calenardon pour rejoindre Athrad Angren, les guets de l'Isen, et qui de là poursuivait vers le nord jusqu'à l'Arnor, serait ouverte à tous les voyageurs, de l'un et l'autre peuple, sans restriction aucune en temps de paix, et que son entretien, depuis la rivière Mering jusqu'au gué de l'Isen, serait à la charge des Éothéodes. Selon les termes de ce pacte, un petit canton seulement du Bois d'Anoir, à l'ouest de la rivière Mering, fut inclus dans le royaume des Orles. Mais Kirion déclara que la colline d'Anoir serait désormais un lieu sacré pour les deux peuples et que les Orlings et les intendants s'en partageraient alors l'entretien et la garde. Toutefois, par la suite, à mesure que les Rohirrim se faisaient toujours plus nombreux et plus puissants, et que dans le même temps le Gondor allait déclinant sous la menace de l'Est et celle venue de la mer, les gens de l'Estfold uniquement assurèrent la charge de gardien de l'Anoir, et le bois devint, par usage, partie intégrante du domaine des rois de la Marche. Et ils nommèrent la colline Alifirienne, tandis que le bois reçut le nom Firienholt. Avec le temps, le jour du serment vint à être reconnu comme le premier jour du nouveau royaume, jour où Éorl prit le titre de roi de la Marche des Cavaliers. Mais dans les faits, il devait se passer encore un certain temps avant que les Rohirrim prissent possession de ses terres et de son vivant, Éorl fut connu sous le nom de seigneur des Éothéodes et roi du Calénardon. Le terme « marche » désigne une frontière, plus particulièrement une frontière servant de rempart aux régions intérieures d'un royaume. C'est Alas, fils et successeur de Kirion, qui conçut le premier les termes Sindarin, Rohan, pour désigner la marche, et Rohirrim, pour désigner son peuple. Et ces termes devinrent d'usage courant non seulement au Gondor, mais aussi parmi les Éothéodes eux-mêmes. Le lendemain de la prestation du serment, Kirion et Éorl s'étreignirent et à regret se firent leurs adieux. Car Éorl dit « Seigneur intendant, j'ai beaucoup à faire et qui presse. Cette terre est délivrée à présent de ses ennemis, mais ils n'ont pas été détruits à la racine, et au-delà de l'Anduin et à l'orée de grand-peur, nous ignorons quel péril rôde. J'ai envoyé hier au soir 3 messagers vers le nord, des cavaliers braves et habiles, dans l'espoir que l'un d'eux, au moins, parvienne à mes foyers avant moi, car il me faut à présent y retourner moi-même et en force. J'ai laissé seulement quelques hommes en mon pays, seuls ceux qui étaient trop jeunes et trop vieux. Et si nos femmes et nos enfants doivent entreprendre un tel voyage, avec les quelques biens dont nous pouvons nous passer, il leur faut une escorte, et ils ne suivront que le seigneur des Éothéodes en personne. Je laisserai ici toutes les forces dont je puis me délester, soit près de la moitié de l'armée qui est actuellement en Calénardon. Et entre autres, des compagnies d'archers à cheval qui peuvent voler où besoin est, si les hordes de l'ennemi rôdent encore dans le pays. Mais le gros de mes forces doit rester au nord-est pour surveiller avant tout l'endroit où les Balkoth en provenance des Terres Brunes ont franchi l'Anduin. Car là encore est le principal danger. Mais par là aussi, ai-je meilleur espoir, si je reviens, de conduire mon peuple jusqu'à leur nouvelle terre avec le moins de pertes et d'épreuves possibles. Si je reviens, dis-je, mais par la foi de mon serment, sois assuré que je reviendrai, à moins qu'un désastre ne survienne au cours de ce long voyage et ne nous mène à la mort, moi et mon peuple. Car cette route, il me la faut prendre à l'est de l'Anduin et sous la menace constante de grand-peur, pour finalement passer par la vallée que hantent les ombres de la colline, par vous surnommée Dol Guldur. Sur la rive ouest, le chemin n'est pas praticable pour des cavaliers, et moins encore pour une foule de gens accompagnés de chariots, quand bien même les montagnes ne seraient pas infestées d'orques. Et nul ne peut passer, en petit ou grand nombre, par la Duimordine, où demeure la Dame Blanche, qui tisse des raies que nul mortel ne peut franchir. Par la route de l'Est viendrai-je, comme lorsque je vins à la Celebrant, et que ceux que nous avons pris à témoin de notre serment nous gardent sous leur protection. À présent, quittons-nous ici dans l'espérance. Ai-je ton congé ?
Tu as mon congé, certes, dit Kirion, car je vois à présent qu'il ne saurait en être autrement. Et je perçois que dans notre péril, j'ai trop peu songé aux dangers que tu as courus, et au miracle de votre venue contre tout espoir sur la longue route depuis le nord. La récompense que j'ai offerte de tout mon cœur dans l'exaltation de notre libération me semble peu de chose maintenant. Mais je pense que les paroles de mon serment, que je n'avais point préméditées avant de les prononcer, ne furent pas mises dans ma bouche en vain. Nous nous quittons alors dans l'espérance. Comme il est d'usage dans les chroniques, nul doute qu'une large part de ce qu'on donne ici pour parole d'adieu à Kirion et Éorl fut envisagé et discuté lors de leur entretien de la nuit précédente. Mais peut-être que Kirion prononça effectivement, au moment des adieux, ces mots évoquant l'inspiration qui lui dicta les termes de son serment, car il était homme de peu d'orgueil et de grand courage, et de cœur généreux, le plus noble des intendants du Gondor.